Naším hostem v dnešní rozhovorové hodince na rádiu Wave je významný francouzský režisér pan Gaspard Noé. Bonjour.
Bonjour.
A s námi je tady také slečna překladatelka Magda Koucká, kterou jsem v pátek při rozhovoru s Bruno Dumontem zapomněl představit, takže ahoj.
Ahoj.
Pan Gaspard Noé přijel na festival Febiofest představit svůj nový snímek Vejdi do prázdna. Pro ty, kteří nevědí, pan režisér se narodil v Argentině, v Buenos Aires a patří bezesporu mezi nejprovokativnější francouzské režiséry současnosti. Díky svým filmům, jako je třeba Řeznický, Diptych, Maso a Sám proti všem, nebo i v české distribuci uvedený skandální snímek Zvrácený, bývá řazen do proudu takzvané nové extrémní francouzské kinematografie. Ty jeho filmy jsou pravidelně uváděny na festivalu v Cannes s velmi rozproplnou odezvou. Tam měl právě premiéru loni i jeho aktuální snímek Enter the Void, neboli Vejdi do prázdna. Já bych se pana režiséra chtěl na úvod zeptat. On ve svých filmech zpravidla střídáte takové dva stylové extrémy. Na jedné straně takové rychlé, epilepticky snímané, stříhané sekvence a velmi dlouhé statické záběry. Jaký druh vlastně zážitku nebo pocitu by si měl podle vašeho záměru z tohle formálního napětí odnést sám divák?
Dans vos films, vous utilisez beaucoup des styles assez extrêmes, souvent des séquences assez rapides et après des longues prises sans arrêt. Alors, quel type de sentiment ou d'impression vous voulez transmettre pour le public par cette forme qui est assez intensif?
Je pense que si on veut écrire des romans, il faut écrire des romans. Si on veut faire des pièces de théâtre ou des téléfilms, on peut faire des pièces de théâtre ou des téléfilms. Moi, je conçois plutôt le cinéma comme des roller coasters, où il faut que les gens ils aient des sensations fortes. Tout réalisateur, quand il commence un film, il invente son système linguistique. Moi, j'aime bien les plans séquences, parce que j'ai l'impression qu'on a plus le temps de s'installer dans une situation. Et j'aime bien les effets stroboscopiques, jouer avec l'image, la rendre floue, nette, des choses comme ça. Mais cela, c'est plutôt pour créer un état d'hypnose qui ressemble un peu plus à l'état de sommeil, au rêve en général.
Když chce někdo dělat divadlo a dělá divadlo, já dělám filmy a snažím se, aby ty jednotlivé záběry nenechaly diváka usnout, takže používám takový efekt stroboskopu, střídám rychlé záběry a krátké, dlouhé záběry. Je to můj styl práce.
Co by filmář, vy už vlastně od počátku ohledáváte takové tajemné místo, kde se, dejme tomu, umění potkává s pornografií. Souhlasil byste s tohletou definicí, nebo mohl byste ji případně nějak rozvést?
Comme un cinéaste, vous étudiez souvent un point où se croisent les tendances de l'art artistique et en pornographie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition et vous pouvez peut-être la développer plus?
Artistique, mon père, il est peintre. Donc, effectivement, peut-être que j'aime bien les images un peu bien faites. Après, la pornographie, c'est un terme un peu péjoratif pour ce que c'est que de filmer des gens qui font l'amour. Je pense que c'est peut-être parmi les meilleures choses que j'ai fait de ma vie, j'ai fait l'amour. Et voilà, je vois pas pourquoi on pourrait pas montrer ça au cinéma.
Umělecky mám rád výtvarno, vůbec kresby, malby, takže to je to, co se snažím ve svých filmech ukázat, vlastně takové hezké nebo působivé obrazy. A pornografie je takový pejorativní dneska název pro to milovat se nebo dělat jakoby pro sexualitu. A tyto dvě věci, ať už malba nebo pornografie, tedy sexualita, to jsou dvě věci, které umím asi nejvíc, tak proto je dávám dohromady.
D'ailleurs, le prochain film que je veux faire un film érotique, pornographique, comme dans les années 70, en 35 mm, qu'on dans des salles qui soient vraiment bien, parce que j'en ai pas vu beaucoup qui soient vraiment bien.
A můj příští film vlastně bude erotický taky, pornografický možná, a bude to ve stylu filmu ze 70. let, takže to je vlastně typ sexuálně laděných snímků, které se mi líbí.
Vy býváte kvůli právě radikalitě a explicitnosti svých filmů často řazen do proudu, jak jsem před chvíli říkal, takové té extrémní francouzské kinematografie, kterou zastupuje třeba i částečně Bruno Dumont, který tady byl v pátek, nebo třeba Catherine Breillatová. Cítíte se být s těmhle tvůrci nějak zpřízněn, nebo se cítíte víc jako solitér?
à cause ou grâce à votre radicalité et explicité dans votre langage du cinéma, vous êtes souvent classé dans, dans une nouvelle vague française du cinéma extrême. On peut dire que parmi les membres, il y a aussi Bruno Dumont ou Catherine Breillat. Est-ce que vous sentez un apparentage avec ces gens?
Il y en a plein, il y en a beaucoup d'autres. C'est juste que peut-être qu'il y a plus de liberté d'expression en France, dans le cinéma. Pour que les gens puissent réaliser des films, il faut qu'il y ait des financiers. Et peut-être que les financiers en France donnent plus de liberté d'expression aux réalisateurs. Oui, il y a des choses que j'aime beaucoup chez Catherine Breillat, il y a des choses que j'aime beaucoup chez Dumont. Il y en a d'autres, il y a même dans un autre registre, Yann Kounen, Kassovitz, qui ont fait des séquences violentes dans certains films. Ouais, moi j'aime bien les films qui ont des images fortes. Mais il y en a aussi beaucoup à l'étranger, hein. c'est pas que la France.
Existuje mnohem víc vlastně jmen, které jste nejmenoval, a je to možná způsobeno tím, že je prostě jednoduše větší volnost ve vyjadřování a proto vznikají vlastně filmy, kde je více demonstrováno. A kromě těch jmen, co jste jmenovala, tak určitě je to i Kassovitz například a jsou to i filmaři po celém světě.
Vy jako jednu z takových svých stěženích inspirací často uvádíte Stanleyho Kubricka. Co vás na něm tak oslovuje? Je to taková ta až fanatická preciznost nebo hypnotické kvality třeba jeho filmu?
Vous dites souvent que votre source d'inspiration est aussi Stanley Kubrick. Est-ce que c'est plutôt sa précision peut-être fanatique ou ce sont des qualités de ses films qui sont souvent hypnotiques?
Je trouve, non, il y a un film de lui que je place au-dessus de tout, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Mais je suis plus fan de ce film-là précisément que de l'œuvre complète de Kubrick. Par contre, c'est un des rares réalisateurs qui a autant géré qui a eu autant de contrôle en pré-production, en production. Et en post-production, au niveau de la distribution, et ça c'est admirable. Mais il y a plein d'autres réalisateurs dont je me sens proche. J'aime beaucoup Lars von Trier, par exemple. Et il y a un film tchèque que j'aime beaucoup, qui s'appelle en français L'incinérateur de cadavres, de Juraj Hertz.
Celui-là,
j'adore.
C'est très bien, en film.
Pardon za vyřčení jenom jména filmu. K tomu se vracel Gaspar Noé s tím, že jde o jeden z jeho oblíbených filmů a samozřejmě rozvedl svůj vztah k Stanleymu Kubrickovi, o kterém řekl, že jeho dílo samozřejmě má velmi rád a mezi jeho nejlepší filmy řadí film z roku 2007, jehož jméno teď bohužel z francouzštiny nepřeložím, ale uvádí, že mezi jeho inspiraci patří i další filmaři. Není to jenom jeden Stanley Kubrick.
Eyes Wide Shut, asi poslední snímek, který dokončil těsně před smrtí Stanley Kubrick. Mezi klíčové zážitky vy řadíte i snímek Angst rakouského, tedy strach rakouského režiséra Geralda Karga. Ten snímek je z roku 1983. Myslím, že českému publiku je vlastně zcela neznámý. Tak aspoň řeknu, že je to snímek o propuštěném psychopatickém vrahovi, který podléhá nutkání znovu zabíjet. A stejně jako ve vašich filmech Maso a Sám proti všem se tam objevuje rodič s mentálně postiženým dítětem. Co vás na tomhle dodnes vlastně vysoce ceněném filmu tak zaujalo?
Vous classez aussi parmi des expériences les plus fortes le film Angst from
de
Gérard Carle. Est-ce que c'est un film d'un assassin psychopathique? Et il y a aussi présent un parent avec un enfant handicapé. Vous l'utilisez ce symbole aussi dans vos films.
Carne, seul contre tous.
Voilà, et seul contre tous. Alors, qu'est-ce que vous a inspiré dans ce film?
Non, je pense que le truc qui m'a le plus inspiré dans ce film-là, c'est l'utilisation de la caméra. C'est Zbigniew Rybiński, un réalisateur polonais de films expérimentaux, qui avait fait la caméra et le montage du film, et c'est magnifique. Et aussi l'usage de la voix off, parce que pendant que le psychopathe qui sort de prison, il tue une famille, il n'arrête pas de penser à un autre moment, à des traumatismes d'enfance, et du coup, t'as l'impression que que ce qui est fait est moins grave que ce qu'on lui a fait à lui. Et du coup, il y a un décalage entre ce qu'on voit et ce qu'il pense qui est très intéressant. Et pour mes deux premiers films, Karn et Seul contre tous, j'avais utilisé beaucoup de voix off. Et je dirais le film où je trouve l'utilisation de la voix off la plus intéressante, c'est celui-là, c'est Angst.
Co je na filmu Strach výjimečné, je kamera Rubinského, která opravdu je neuvěřitelná a hrozně mě inspirovala. A co já osobně považuji na tomto filmu za výjimečné, je jakým způsobem vnímá divák konání vraha, který vlastně při tom svém šíleném počínání celou dobu myslí a sám komentuje jeho zážitky z dětství a divák najednou neví, co je horší, jestli ta aktuální situace anebo to, co se mu stalo, a to mi na tom přijde zásadní.
Možná bychom se mohli v tuhle chvíli přesunout k aktuálnímu filmu Gaspara Noé, který přijel představit na Fibio Fest, Enter the Void. Pro ty z vás, kteří nevědí, o čem tenhle ten film je, vězte, že je o dvou sourozencích, Oscarovi a Lindě, kteří jsou po smrti rodičů při autonehodě vlastně rozděleni a potkávají se znovu až v Tokiu, kde Oscar pracuje jako drogový dealer a Linda ve striptýzovém baru, a oni si vlastně slíbí, že se za žádných okolností nikdy neopustí. Nicméně ten snímek vlastně začíná naplňovat od té chvíle, kdy je Oscar zastřelen, ale slib, který si dali tři sourozenci, mu neumožňuje opustit tento svět, takže jeho duch vlastně bloudí Tokiem a má to tenhle ten mystický nádech. Tenhle ten váš snímek je situován do převážně nočního Tokia. Proč právě tato japonská metropole, tenhle ten neonový labyrint vyhovoval nejlíp vašim představám?
Alors, en décrivant l'histoire du film, de votre nouveau film, Enter the Void, votre film est situé dans le Tokyo de nuit, dans la plupart de sa durée. Et pourquoi c'est la métropole japonaise que vous avez utilisée? Et est-ce que c'est peut-être les néons et le labyrinthe des néons qui vous a plu et que vous avez utilisé dans votre vision?
Effectivement, il y a quelque chose à Tokyo, mais qu'on retrouve aussi à Hong Kong, c'est ce côté Las Vegas du futur, avec des gratte-ciel et des tubes néons partout, qu'on ne trouve pas vraiment ailleurs. Je ne connais pas Shanghai, mais Tokyo et Hong Kong, il y a ça. Si j'ai choisi plutôt Tokyo que Hong Kong, c'est parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont à Tokyo, que j'étais une vingtaine de fois dans ma vie. Et voilà, et je me sens très bien, j'adore le mode de vie japonais, j'adore la culture japonaise, et du coup, voilà, je mourrais d'envie d'aller faire un film là-bas.
Voilà. To, co se mi líbilo na Tokiu, je vlastně i to, co najdeme v Hongkongu, nebo možná i jinde v Asii, ale vím jenom o Hongkongu a Tokiu, to jsou ten efekt Las Vegas, který je tam všude prostě přítomen. A v Tokiu, proč jsem si vybral Tokio, protože tam mám hodně známých, protože jsem tam už asi 20krát za svůj život byl, mám tam lepší podmínky, možná i pro filmování, takže proto Tokio.
Après, il y a pourquoi aussi les tubes néons, ça a une importance dans le film, c'est parce que le film, ça raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur très jeunes de 20 ans, tous les deux américains, qui sont perdus dans Tokio. Lui, pour survivre, il vend de la drogue, des hallucinogènes, et elle, pour survivre, elle fait du striptease. Lui, il fait ça pour qu'elle arrête de travailler, et tout le film est vu de son point de vue à lui. Or, il y a des gens qui disent que quand on prend des hallucinogènes, du LSD, du DMT ou de drogue, on a l'impression d'être dans le film Tron. Donc, c'est quelque part, je voulais que la ville dans laquelle l'histoire se passe soit hallucinogène, et Tokyo est une ville un peu hallucinogène, visuellement.
A druhý důvod, proč jsem vybral vlastně neony ve svém prostředí filmu, je ten, že hlavní postavy Oscar pracuje jako drogový dealer, jak bylo řečeno, a vlastně celý film je vyprávěn z jeho pohledu převážně, a on vlastně tím, že užívá třeba i drogy, tak tím působí takový efekt halucinogenu, který i ty neony mají jakoby posílit.
My se posuneme dál v mapování toho filmu Vejdi do prázdna. On je inspirován mimo jiné tibetskou knihou mrtvých, která pro posluchače, kterým se nedostala do ruky, teda pojednává o stavu takzvaného, dejme tomu, mezibytí, což je podle tibetských buddhistů vlastně fáze, kterou procházejí po fyzické smrti všechny bytosti. Co vás na tibetské knize mrtvých přitáhlo?
Votre film Enter the Void est inspiré, entre autres, par le livre tibétain des morts. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré sur cette œuvre?
D'ailleurs, ce livre-là, il en est question dans le film dont on parlait de George Hertz.
O této knize vlastně pojednává i film od Juraje Herce. Mm-hmm.
Le livre des morts tibétains, c'est un livre que les moines tibétains lisent aux gens quand ils sont morts, et c'est pour aider l'esprit du mort à soit accéder à un état d'existence supérieur, soit se réincarner dans le bon ventre. Moi, je ne suis pas du tout bouddhiste, je ne suis même pas religieux, je suis totalement athée. Mais je trouvais que c'était une bonne structure pour un film où je voulais montrer ce que les gens appellent une projection astrale, la sortie de son corps. Il y a aussi pas mal de gens qui disent, quand ils ont des accidents de la route, « Ah, je suis sorti de mon corps, je me suis vu de l'extérieur », et je me suis dit, voilà, si j'utilise les descriptions de projection astrale ou « Near Death Experience » et le livre des morts tibétains comme structure, je peux faire un film avec ça.
Kniha. Tibetská kniha mrtvých pojednává o tom, co se vlastně stane s lidskou bytostí po její smrti, v podstatě, že dosáhne jakéhosi stavu, kdy buď může žít nějaký vyšší život, anebo se může v něco převtělit. A to je velmi zajímavá látka pro znázornění toho, co se děje s lidmi po smrti. A já nejsem vůbec buddhista, ani nejsem jakoby toto věřící, ale v tom filmu to funguje velmi dobře. A to je také to, co často říkají lidé, kteří mají například nehodu, že se najednou vystoupili ze svého těla a asi na tom něco pravdy bude.
Mě je déjà l'écrivain de science-fiction Philippe K. Dick, qui avait fait des romans de science-fiction basés sur le livre des morts tibétains, ou Bardo Todol, si c'est souvent les gens connaissent plus le livre sous le nom Bardo Todol qui est le nom original.
Ale už vlastně existuje jeden spisovatel
Philip K. Dick,
který psal sci-fi na toto téma a psal, vlastně se zaobíral tou knihou, která se originálně říká Bardo Todol, a vlastně ji studoval.
Na to jsem se chtěl právě zeptat v zápětí, že vlastně to Enter the Void, vidět do prázdna, se snaží jakoby zachytit nebo možná napodobit nějaký proměnlivý proud lidského vědomí. Z čeho vlastně ty vize vycházejí? Jestli se třeba setkal s nějakými lidmi, nebo vycházel ze svědectví lidí, kteří se ocitli třeba blízko smrti nebo něco takového?
Peut-être que votre film essaye d'attraper ou imiter la source de la vie ou de la conscience, où il y a aussi le présent et aussi les rêves et les souvenirs. Est-ce que vos visions allaient des témoignages des gens qui étaient proches de mort, ou c'était une inspiration par les hallucinogènes?
En ce qui concerne les expériences de mort imminente ou near death experience, j'ai lu beaucoup d'articles et de livres à ce sujet. Souvent, les figures de style ou les descriptions d'hallucinations sont plus ou moins les mêmes, donc c'était facile de s'inspirer de ça.
Co se týče inspirace těmi mimo vědomí, stavy mimo vědomí, tak o tom už bylo napsáno hromadu, takže o tom vlastně člověk něco málo ví.
Après tout le film est vu ou ressenti du point de vue du personnage principal, en vision subjective d'abord et en perception mentale à partir du moment où il y a un accident, il se prend une balle, il est en train de mourir. Et du coup, je me suis dit, voilà, ce serait bien qu'on accompagne quelqu'un de sa vision normale à ses hallucinations, et on ressent toujours dans sa tête, dans la mémoire, quand le personnage revoit des souvenirs d'enfance, etc., on est légèrement derrière sa nuque, parce que moi, quand je pense à mon passé, je me vois toujours à l'intérieur du cadre. Et après, quand il a l'impression de sortir de son corps, voilà, c'est des mouvements filmés avec une grue au-dessus des personnages, et tout le dernier tiers du film, c'est comme si c'était un fantôme qui volait à travers Tokyo, à travers les murs, comme un fantôme, quoi.
A samozřejmě i ta druhá část je částečně pravdivá. Zajímalo mě, co lidi, kteří měli nějakou nehodu nebo kteří třeba si chtěli vzít život, tak co viděli těsně před tím pokusem nebo těsně po té nehodě. A je to většinou velmi podobné, že se ty lidi jak kdyby vznášejí a ty lidi jsou okolo nich, a ostatní lidé žijící jsou okolo nich, pod nimi, nad nimi. A to je to, co jsem také ve filmu použil. Vlastně Oscar po své smrti se jakoby vznáší nad celým světem.
Vy ve svých raných filmech jste používal hodně mezititulků, například ve Zvráceném, teda u nás špatně překládaný film Zvrácený, Irreversible, samozřejmě znamená spíš nezvratný, mě ten překlad vždycky trochu iritoval, tak ve Zvráceném zase požádat takovou odpoutanou, dejme tomu manickou kameru a převrácenou chronologii, vejdi do prázdna, to je takový formálně excentrický filmový trip. Co to pro vás vlastně znamená experimentovat?
Dans votre film de début, vous avez souvent utilisé des intertitres dans le film. Irréversible, vous utilisez une caméra un peu déchaînée et la chronologie réciproque. Et ce film, Enter the Void, est formellement un peu trip excentrique. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, expérimenter dans le film?
L'idée aussi pour ce film, c'était de donner l'impression aux spectateurs qu'ils sont drogués. Donc on s'est dit, voilà, quand les gens fument des joints, quand les gens mangent des champignons, leur perception est altérée. Et il y a des effets sonores distordus, il y a des effets visuels distordus. Et du coup, j'ai tout fait pour que par voie cinématographique, le spectateur ait l'impression d'être drogué lui-même.
Co jsem chtěl tímto filmem jakoby vyvolat, je, aby si divák myslel, že je zdrogovaný. Je to tam všude vlastně použitý je například rozmazaný obraz, rozmazaný zvuk, jestli se to tak dá říct. A všichni kouří, jí se tam různé houbičky. A takže to, co mě zajímalo, je, aby si divák jakoby vžil do té atmosféry.
Je déjà pas mal d'autres réalisateurs qui ont tenté de reproduire les états altérés de la conscience. Il y a un film qui s'appelle Altered States qui était pas mal.
Il y a déjà dost filmařů, kteří toto použili, například.
Il y a eu des films de Ken Russell ou de Kenneth Anger ou de Jordan Belson qui ont essayé de reproduire ça.
Například od Kena Russella a dalších.
Moi j'ai fait de mon mieux. Mais après, ce qui est drôle, c'est que les gens qui ont déjà pris des hallucinogènes, ils disent « Ah, oh, c'est comme ça, ça me rappelle mon adolescence. » Et les gens qui n'en ont jamais pris, ils disent « Ah, oh, c'est génial, j'ai eu une expérience hallucinogène, mais après avoir vu ton film, j'en prendrai jamais, ça fait trop peur. »
Ale je zajímavé, že všichni lidé, kteří vlastně si někdy nějaké halucinogeny vzali, tak buď si vzpomněli na své dětství, kdy je užívali, nebo pokud je vzali poprvé, tak říkali « je to skvělé, ale všichni se shodli na tom, že už si je později nevezmou.
Vy jste použil jako hudbu k tomhle snímku tvorbu Tomase Bangaltera, což je vlastně polovina elektronického dua Daft Punk. Chtěl jste je angažovat už od začátku? Jste fanouškem jejich hudby? Nebo viděl jste i třeba jejich film Electroma, takový experiment pouštní?
Vous avez utilisé une musique de duo Daft Punk ou en fait d'un musicien de Thomas Bangalter. Est-ce que vous l'avez voulu engager depuis le début ou c'était une... Vous aimez la musique?
Non, là, je crois qu'il y a mal entendu. Il a fait la musique d'Irréversible, Thomas Bangalter, mais il n'a pas du tout fait la musique de celui-ci. Pour celui-ci, il a juste fait des effets sonores.
Ten Thomas Bangalter vlastně nesložil hudbu k tomuto snímku, složil hudbu k filmu Irreversible Zvrácený, ale tady vlastně vytvořil ty zvukové efekty jenom.
Je lui ai proposé de faire des musiques pour ce film-ci, mais il avait pas le temps ou peut-être qu'il pouvait pas contractuellement parce qu'il est en train de faire la musique de Tron numéro 2 avec son partenaire de Daft Punk. Et du coup, la musique dans mon film, dans celui-ci, il y a plein de groupes différents, des sources différentes. Il y a Strobing Gristle, il y a Les Faux.
A ve filmu Enter the Void vlastně neměl buď čas Thomas Bangalter, nebo byl vázan smluvně. Každopádně složil alespoň nějaké ty zvukové podklady a je to asi teda tím, že z Daft Punk teďkon s tím druhým členem skládají další desku.
Je tam použitá hudba vlastně od LFO a také významné elektronické kapely Throbbing Gristle, jak jsme slyšeli. Pojďme se na chvilku vrátit ke kořenům, dejme tomu. Gaspar Gaspar Noé je rodák z Argentiny. Máte na tuhletu jihoamerickou zemi nějaké vzpomínky? Vracíte se tam někdy? Já vlastně netuším, jak dlouho jste tam žil, nebo jste se tam pouze narodil.
Vous êtes né en Argentine. Est-ce que vous avez des relations avec ce pays-là, des souvenirs?
Oui, je n'ai pas, mais mes parents, ils habitent là-bas. J'ai grandi en réalité en Argentine entre 6 et 12, parce qu'avant mes parents, dès que j'étais né, ils étaient partis aux États-Unis, donc jusqu'à l'âge de 5 ans, j'étais aux États-Unis. De 6 à 12, j'étais à Buenos Aires, et après, pour des raisons politiques, ils ont dû s'installer en France, ils devaient quitter le pays très vite. Et depuis l'âge de 13 ans, donc je suis en France. Mais mon père, il est reparti là-bas avec ma mère, et c'est une star de la peinture, et il est très heureux là-bas, je vais le voir une fois tous les ans, tous les deux ans.
Realita je, že jsem vlastně vyrůstal od svého narození v Americe až do svých 6 let a potom od 6 do 12 jsem tedy žil v Buenos Aires a pak z politických důvodů jsem se přestěhoval do Francie. Moji rodiče ale nicméně žijí stále v Buenos Aires, tatínek je malíř a působí tam, takže se tam rád vracím. Mám tam určitě dobré vztahy.
C'est un pays que j'aime beaucoup, mais qui me fascine pas.
Je to země Argentina tedy, která mě velmi fascinuje, kterou mám rád moc, ale moc mě nefascinuje.
J'étais à Cuba dernièrement, Cuba me fascine, Tokyo me fascine, même Hong Kong me fascine. Des fois, je pense qu'il y a des pays où on va aller tourner des films parce que le pays te fascine.
Byl jsem na Kubě, byl jsem v Hongkongu, tyto místa mě fascinují. Místa, která mě fascinují, tam mám třeba i náladu nebo chuť natočit film, ale Argentina mezi ně nepatří.
Právě váš otec, na to jsem se chtěl taky zeptat, Luis Felipe Noé, jak jste říkal, je významný malíř a slyšel jsem, že je i příležitostný scenárista. Jestli je to pravda a nakolik vlastně ovlivnila jeho profese nebo vnímání světa váš filmový pohled na svět?
Comme vous avez dit, votre père, Luis Felipe Noé, est un peintre assez célèbre. Peut-être il est aussi un scénariste, si on sait des informations correctes. Et comment sa profession vous a influencé dans votre création?
Il est, sa profession principale, c'est peintre. À part ça, il a écrit des romans. Il a écrit un roman et 3 essais d'art ou en général. Il a même fait une bande dessinée, mais c'est plutôt pour s'amuser. Son métier principal, c'est vraiment la peinture. Il est connu pour peintre.
Hlavní práce nebo hlavní povolání mého otce je, že je tedy malíř, ale mimo to tedy napsal jeden román, 3 eseje umělecké a také jeden komiks, ale hlavně teda je malířem. Et comment vous êtes influencé par ses opinions, peut-être dans vos films aussi?
Ses opinions, c'est son comportement plutôt qui m'a influencé.
Je to spíš jednání, které mě tedy ovlivnilo v mé filmové tvorbě.
Il a beaucoup d'amis, il boit beaucoup, voilà.
Má hodně přátel, hodně pije.
Il croit vraiment à l'art comme un moyen de communication suprême. Dans son cas, c'est la peinture. Je pense que le cinéma, c'est pas vraiment de l'art. C'est parce que c'est un truc d'équipe. Faire des films, c'est plutôt comme diriger une équipe de foot. Alors que peindre, c'est plus un truc qu'un artiste peut faire. Moi, j'ai l'impression qu'on essaie de s'amuser avec d'autres footballeurs pour que le match soit bon.
A je velmi dobrým vlastně umělcem a myslím si, že to jeho umění, tedy malířství, je opravdu umění. Já film nebo jako takový za umění nepovažuji. Myslím si, že je to spíš záležitost týmová, něco jako fotbalový zápas. Musíte se s ostatními sehrát a nějakým způsobem je ukočírovat.
Říkáte sehrát, ale já jsem měl vždycky z vás trochu pocit, nebo z vašich filmů, že ten název toho snímku Sám proti všem, že by mohl sloužit možná trochu jako vaše autorské moto. Když se vrátíme k vašim filmům a k reakcím na ně, jak snášíte občasné rozhořčené nebo rozhorlené reakce publika na své filmy? Narážím třeba na projekce snímku Irreversible v Cannes.
Alors peut-être, alors j'avais l'impression que le film Seul contre tous est un petit peu l'épigraphe d'auteur. Alors quelle impression avez-vous quand vous voyez des réactions de public qui sont assez exaspérées après une projection de votre film parfois?
Ça fait plaisir d'avoir des ennemis.
Je to radost mít nějaké nepřátele.
C'est au contraire, c'est du plaisir. Que tous les films, c'était pareil, que Karn, Seul contre tous, Irréversible. T'as toujours des gens qui sortent, disent, ah, c'est horrible, oui, il a le réalisateur, qu'on lui pète la gueule. Tu sais ce que c'est, péter la gueule, c'est... Et après, ils viennent jamais, mais et après, il y a des disputes, etc. On a l'impression qu'on a fait une bonne blague à partir du moment où il y a des gens qui s'énervent. Je dirais, Seul contre tous, même si c'est noir, ou même Irréversible, il y a un côté drôle à la fois dans le film, même si c'est des sujets dramatiques, mais aussi dans les réactions. Et voilà, je pense que je me suis trop habitué à ce qu'on appelle la controverse pour m'en passer. J'aime bien ce genre de réaction.
Vždycky jsou nějaké negativní reakce na filmy a je to možná i součást celého toho představení. Ono se zdá, že filmy Sám proti všem a Zvrácený jsou dramatická díla a asi jsou, ale je tam i něco trošku směšného a souvisí to asi s normální reakcí publika, když je někdo nespokojený.
C'est mon côté adolescent attardé. J'aime bien ça.
To je moje období adolescence trošku spožděné, takže to mám rád.
Un jour, je ferai un film sérieux, mais je suis pas encore.
Jednoho dne udělám asi nějaký seriózní film, ale ještě nevím.
Ještě než uděláte ten seriózní film, pojďme se na chvilku vrátit k vaší krátkometrážní tvorbě, která vlastně aspoň v Česku není tolik známá. O čem byly vlastně vaše první krátké filmy Tintarella di Luna a Pulpe a Mer, tedy Opálení měsícem a Trpká dužnina? Jak se na ně vlastně díváte dneska s odstupem víc než 20 let? Ty filmy jsou z roku 85 a 87.
En revenant vers vos courts-métrages de début, c'était la Tintarella di Luna et Pulpe à mer. Comment vous regardez sur ces films après quelques 20 ans, 25 ans?
La vérité, c'est que ces films-là, je ne les regarde même plus. Si je tombe dessus, je me dis, ah tiens, c'est drôle, mon père, il était bien. Dans le premier film, c'est mon père qui jouait le tueur. Mais faire du cinéma, ça prend beaucoup de temps. On n'a même pas le temps de voir les films qu'on veut voir au cinéma ou les DVD des autres, encore moins regarder ses propres films. Si un jour, peut-être, je vais faire un DVD avec la totalité de mes courts-métrages, je les regarderai à nouveau, mais c'est pas très plaisant. Les autres réalisateurs disent la même chose, qu'ils n'aiment pas regarder leurs vieux films.
Realita je, že na to člověk nemá čas se dívat na své staré filmy. Je pravda, že si někdy vzpomenu, jak to bylo vtipné, když můj otec hrál zabijáka právě v Tintarella di Luna, ale osobně se na své starší filmy, asi by to řekla i řada dalších režisérů, nedívám. A je to prostě nedostatkem času. I na současné filmy se nestíhám na všechny podívat, stíhám jedno DVD za nějaký čas.
Vy jste v roce 2005, tuším, natočil takový dvouminutový snímek Eva s českou modelkou Evou Herzigovou. Pro ty, kteří neviděli, dá se vidět na YouTube. Jsou to takové lehce fetišistické hrátky s kotětem ve spodním prádle. Jak k tomuhle tomu došlo?
En 2005, vous avez tourné un court-métrage, un sketch avec une modèle tchèque Eva Herzigova, qui s'appelle Eva. Pourquoi vous avez fait un film de ce genre-là?
En réalité, c'est trois courts-métrages qui doivent faire une minute et demie chacun. Et c'est au moment du festival de Cannes, une chaîne de télé, Canal+, disait, voilà, on va faire des courts-métrages avec Eva Herzigova, qui sera l'invitée du journal de 19h tous les jours. Et du coup, ils ont proposé à d'autres réalisateurs si vous voulez en faire un. Et c'est vrai que d'autres réalisateurs n'étaient pas disponibles et du coup ils m'ont dit, oh, sinon est-ce que toi tu serais capable de faire 3 ou 4 courts-métrages d'une minute et demie? Et je dis oui, mais il n'y avait pas de sujet, c'était carte blanche. Alors, il fallait juste rendre en une semaine, faire 3 courts-métrages d'une minute et demie. Et du coup j'étais dans un hôtel luxueux avec une équipe, avec elle qui était adorable. Et voilà, on s'est amusé à faire 3 courts-métrages qui étaient montrés pendant le journal spécial de Cannes qui passait à 19h. Ça fut un plaisir de travailler avec elle.
Ve skutečnosti šlo o 3 krátké snímky, asi minutu a půl trvající a byly natočeny pro Canal+ v rámci festivalu v Cannes v roce 2005 a šlo o to, že Canal+ chtěl mít s Evou Herzigovou, která byla hostem zpravodajské relace v 7 hodin, chtěl mít nějaké krátké skeče a žádný z režisérů se k tomu neměl čas, nebyl disponibilní a tak jsem se toho ujal já a bylo to, dostal jsem volné zadání a tak jsem si to prostě s ní užil. Měli jsme k dispozici luxusní hotel, Eva byla úžasná.
C'était un peu, on se demandait le matin ce qu'on allait tourner le soir et puis on improvisait.
A ráno jsme se domluvili, o čem budeme točit večer, a pak jsme improvizovali.
To zní báječně. Před 4 lety vy jste taky se vyjádřil k lidské sexualitě prostřednictvím takových dvou krátkých filmů, které byly součástí větších cyklů. Mám na mysli dokument Sida o Černochovi, který umírá na AIDS, a taky erotický projekt Distracted. Mohl byste nám tyhle ty méně známé tituly, tuším, že jsou také aspoň jeden z nich dostupný na YouTube, nějak přiblížit?
Il y a 4 ans, vous vous êtes exprimé aussi envers la sexualité à l'aide de films courts-métrages qui parlaient un qui s'appelait Sida d'un homme qui mourait à AIDS, et le deuxième c'était le projet érotique Distracted. Est-ce que vous pouvez préciser comment ça s'est passé pour tourner ce film?
En attendant de faire mon nouveau long-métrage, des fois on attend que la production se lance, et on a du temps pour faire des courts-métrages. On m'avait proposé de faire un court-métrage pornographique dans une série de courts-métrages dont d'autres étaient faits par Larry Clark, Mathieu Barnet et d'autres artistes, et du coup je dis oui. On m'avait donné de l'argent, on m'a dit fais ce que tu veux, tu nous rends un film de 10-15 minutes. Voilà, j'ai fait ce qui m'était passé par la tête. Et du coup après c'était inclus dans ce long métrage. Après le court métrage sur le sida, c'était très différent. C'était un court métrage avec 8 épisodes sur les 8 points sur lesquels l'ONU disait qu'il fallait se battre pour le nouveau millénaire. Et parmi les points que l'ONU considérait comme un des objectifs principaux du nouveau millénaire, c'était combattre le sida. Et du coup, au lieu de faire un film de fiction, je me suis dit, tiens, je vais filmer des confessions de gens qui sont en train de mourir du sida. Et il s'avère que j'ai filmé 3 hommes qui avaient été contaminés par des femmes. Et le court-métrage, à la fin, c'est juste un seul homme. Et il raconte comment il l'attrapait, tous les symptômes de la maladie, comment il va mourir, et qu'est-ce qu'il a envie de faire avant de mourir. Et du coup, voilà, mais tout se passe mal. Et il dit que voilà, tout ce qu'il veut, c'est protéger ses enfants. Et c'est peut-être, si j'ai fait un seul film sérieux dans ma vie, c'est celui-là, même s'il est court.
Co se týče projektu Distracted, tak to bylo jednoduše z období, kdy mezi dvěma dlouho trvajícími snímky normální délky, a tak jsem ho prostě využil, natočil jsem 15-minutový asi erotický film jednoduše. Co se týče druhého filmu AIDS v překladu, tak tento film vlastně vznikl poté, co Organizace spojených národů ohlásila, že nové tisíciletí bude ve znamení boje proti AIDS. A já jsem se rozhodl, že natočím snímek o několika lidech, kteří jsou touto chorobou nakažení, a finálně z toho vznikl snímek jen o jednom z těchto mužů, který byl nakažen tedy ženou. A ten muž vykládá o tom, co pro něj ta nemoc znamená, o symptomech, o tom, jak si představuje svoje další žití, a o tom, že vlastně pro něj je prioritou ochránit své děti. A jestli jsem nikdy nenatočil seriózní, nebo nikdy nenatočím seriózní snímek, tak tento mezi ně určitě řadím, i když je jenom krátkometrážní.
Já ho vzhled doporučuji, to říká pan režisér Gaspar Noé, s kterým bychom si, myslím, mohli povídat klidně ještě hodinu, aspoň mě by to velmi těšilo. Bohužel blíží se nám 4. hodina, jak jsem říkal, nicméně závěrem aspoň jedna otázka, tak říkajíc na tělo.
Une question un petit peu plus personnel à la fin.
Pro ty, co se dívají na webkameru, by to mohlo být patřičně stimulační. Vy jste nepochybně majitelem jednoho z nejimpozantnějších knírů vůbec na poli uměleckého filmu. Řekněte nám něco trochu k téhle zálibě. Budete si ji věnovat i nadále?
Alors, vous avez peut-être entre les cinéastes la moustache la plus impressionnante. Est-ce que c'est votre intérêt que vous aimez beaucoup et lequel vous allez aimer pour toujours?
Ah non, je pense que la moustache, en réalité, c'est qu'à un moment, je voulais jouer dans mon dernier film et je voulais jouer le rôle du super dealer qui vend des drogues au rôle principal. Et comme j'ai une tête plutôt gentille, je me suis dit, tiens, pour jouer un dealer vicieux, il fallait que je me laisse pousser les moustaches. Et je laissais. Après, quand j'étais au Japon, j'ai trouvé quelqu'un qui était beaucoup mieux pour le rôle, et du coup c'est l'autre qui l'a joué. Mais bizarrement, c'est les filles qui m'ont dit, les moustaches te vont bien, peut-être parce que ça fait plus homme, et qu'avant j'avais une tête de garçon et maintenant j'ai plus une tête d'homme. Et du coup je l'ai gardé, pas parce que moi ça me plaît, mais c'est parce que ça plaît aux autres. Mais je pense pas que je vais la garder toute ma vie.
Důvod mého kníru je celkem prozaický. Chtěl jsem si zkrátka zahrát v mém posledním filmu jednoho superdílera a tak jsem si nechal narůst knír, protože bez kníru vypadá moje hlava velmi dětsky. Ale finálně jsem v Tokiu našel jednoho Japonce, který byl pro roli mnohem lepší, vhodnější a tak mi ten knír zůstal, ale myslím, že si ho navždycky nenechám.
Říká Gaspar Noé, vzácný host dnešní odpolední session na Radio Wave, kterému tímto velmi děkuji. Merci beaucoup.